lu par Odile, numéro 296 de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère, un article documenté de Georges Sudre, S-U-D-R-E-S, historien provençal, sur les épidémies dans la région au cours des temps. Cet article m'a été transmis par un proche. Bonjour. Si vous manquez de lecture, si vous êtes confiné et si les formes de coronavirus vous intéressent au cours des temps dans notre secteur, alors vous pouvez lire un article que je viens de boucler sur la peste à Valabrègue et dans ses environs. Pestes et épidémies à Valabrègue et dans les environs. En ces temps de confinement provoqués par la pandémie du coronavirus, intéressons-nous aux différentes maladies contagieuses qui ont pu sévir à Valabrègue et dans ses environs. Le terme de peste, nom qui vient du latin pestis, signifiant fléau, a englobé diverses maladies contagieuses, comme la peste elle-même, mais aussi le typhus, la variole, le choléra. Existent aussi les fièvres paludéennes et la lèpre. Plus près de nous, la grippe espagnole, apportée par les soldats américains en 1917, a fait 50 millions de morts, 5 fois plus que la guerre elle-même. Albert Camus écrit en 1947 dans La Peste « Pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus ». Cette phrase, toujours d'actualité aujourd'hui, se révèle vraie au cours des siècles d'épidémies vécues par nos populations. La situation de Valabrègue dans la vallée du Rhône, à proximité de grands ports comme Marseille ou de foires célèbres comme celle de Beaucaire, a permis les échanges et les activités agricoles et de vanneries liées au fleuve. Par contre, cette situation a pu avoir des conséquences sur la santé des habitants. Invasions, routes commerciales, passages de population, bras morts et zones humides qui sont facteurs de fièvre paludéenne ont eu des répercussions sanitaires. Après de nombreuses années de recherche historique, on peut tracer rapidement une brève histoire de ces épidémies et maladies contagieuses à Valabrègue et dans ses environs. La peste de 1583 à 1652 sévit autour de Tarascon. Les archives de Tarascon et de Valabrègue relatent les nombreux épisodes de peste subis dans la région. Il faut rappeler que la peste est une épidémie qui sévit depuis l'Antiquité et le Moyen Âge, avec la grande peste noire de 1348 jusqu'à la peste de 1720. L'épidémie est véhiculée par les puces des rats noirs qui suivent les armées d'occupation et les marchands qui vont d'un pays à l'autre. Ce n'est qu'en 1894 que le médecin Yersin découvre le microbe à l'origine de la maladie, et donc le remède pour soigner. On ne savait pas qu'elle était transmise par les puces des rats. Pour lutter contre la propagation de la maladie que l'on pensait être transmise par voie aérienne, on cherche à fuir ou empêcher de pénétrer dans certains lieux. Ainsi, les communautés mettent en place des barrières à la porte des cités tenues par des gardes et délivrent des billets de santé attestant que le porteur n'est pas atteint de la maladie. Elles embauchent des maîtres chirurgiens qui font des saignées ou soignent partiellement. Les apothicaires ou pharmaciens proposent des remèdes appelés drogues. On isole le malade par une quarantaine ou isolement de 40 jours dans un lazaret ou cabane de malades. La peste venant d'Asie arrive en Europe, dans le bassin méditerranéen, dès le VIe siècle, faisant de nombreuses victimes. En 1348, la peste noire arrive en Europe à cause des Tatars venant de Chine qui occupent le port de Kaffa en Crimée, au bord de la mer Noire, répandant l'épidémie en jetant les cadavres de pestiférés dans la ville, une sorte de guerre bactériologique avant l'heure. C'est un bateau de marchands génois partant de ce port pestiféré qui répand l'épidémie à Messine, à Gênes et enfin à Marseille en décembre 1347, en débarquant marchandises et rats par la même occasion. Ces rats n'ont pu être attaqués par les chats, car ces derniers avaient disparu à l'époque, à cause de la mauvaise réputation de ces animaux qu'on considérait comme maléfiques par la religion. Cette peste aurait fait en 5 ans 25 millions de victimes, soit entre un tiers et la moitié de la population occidentale. Mais elle a eu pour conséquence positive, du fait du grand nombre de morts, de faire disparaître le servage, où les hommes étaient vendus avec la terre pour des paysans affranchis rémunérés. Le grand chirurgien Guy de Chauliac, un hôpital de Montpellier porte son nom, alors médecin du pape Clément VI en Avignon, a lui-même décrit cette peste noire et en mourra en 1368 après avoir soigné les malades. On a cherché des responsables à l'époque, les juifs, les pauvres, les lépreux. Mais Guy de Chauliac met en cause l'insalubrité des rues d'Avignon et la surpopulation. Déchets, ordures, immondices encombrent alors les rues des villes et villages. C'est peut-être l'occasion de remercier tous ceux qui, aujourd'hui, en ces temps de coronavirus, nettoient nos rues, ramassent nos poubelles, métier indispensable, surtout lorsque la propagation de certaines maladies dépend de la propreté de notre milieu de vie. Ainsi, au cours des temps, à Valabrègue, les autorités ont pris des mesures sanitaires pour lutter contre les fièvres ou paludismes apportés par les eaux stagnantes des bras du Rhône, terrain idéal pour la reproduction de mouches et moustiques. En 1792, un arrêté municipal oblige de faire tremper l'osier dans des ramieux, sorte de bassins à l'air libre, et non dans les launes, pour éviter les maladies. Le 13 prairial, en 9, 2 février 1801, plusieurs articles réglementent l'hygiène publique de Valabrègue, responsable de la propagation des maladies. Défense à tous les citoyens de former des dépôts d'osier dans la petite branche du Rhône. Elle passe au niveau des cafés et du chemin des Zoulous actuels, sous peine de confiscation. Les propriétaires de ramieux seront tenus et obligés de changer souvent l'eau. Ces arrêtés municipaux seront renouvelés au cours du XIXe siècle, en 1829, en 1832, à cause de la contagion du choléra. Ce qui ne plaît pas toujours à certains vanniers qui sont entravés dans leur métier, au point que l'un d'entre eux, condamné en 1884, en pleine épidémie du choléra, boira au tribunal l'eau de son ramieux pour prouver qu'elle n'est pas contagieuse. C'est C.H. Galtier qui raconte ce récit dans l'excellent ouvrage sur les vanniers de Valabrègue. Plus récemment, un panneau rappelait qu'il fallait mettre ses ordures dans le Rhône actif pour qu'elles soient évacuées plus rapidement, même si ce fut aux dépens des populations en aval. Qu'en est-il pour notre secteur pendant ces périodes de peste? En 1586, on se protège contre l'épidémie en demandant aux bateliers d'avoir une permission pour remonter le Rhône en amont de Roquemort. La peste est dans le Vivarais. La peste apparaît dès 1588 à Aramon. L'historien curé Valla signale que la peste appelée ce mal contagieux a fait en 6 mois 206 victimes sur 1500 habitants. Le 16 octobre 1583, ordre est donné aux habitants des maisons contre les remparts de Tarascon de faire fermer les ouvertures à la chaux. En 1598, Thomas Platé, étudiant en médecine à Montpellier, décrit la région qu'il visite en partant d'Uzès, muni d'un laissez-passer délivré par le greffier d'Uzès qui indique « Aujourd'hui, le 20 mars 1598, sont partis d'Uzès, où la santé publique est grâce à Dieu excellente, M. Thomas Platé, Lucas Justus et Jean Poncy, se dirigeant sur Avignon et Villeneuve. Certifié par le sous-signé Le Fitz, greffier. » C'est en quelque sorte l'ancêtre de notre attestation de déplacement actuelle pendant le confinement dû au coronavirus. Toujours à cause de la peste, il fait faire, le 29 mars, un billet de santé où est consigné. Le 29 mars 1598, M. Thomas Platé et Lucas Justus sont partis de Bedouin pour Caron et Carpentras après deux nuits passées à Bedouin. Palier, notaire, signé. Ils ne peuvent se rendre à Montpellier, car, explique Thomas Platé, si l'on prend dans tout le Languedoc des précautions si minutieuses et d'ailleurs si sages contre la peste, c'est que les épidémies y étant plus meurtrières que chez nous, sans doute à cause de la grande chaleur, y dépeuplent souvent des villes entières. En 1608, interdiction aux habitants de partir de Tarascon pour « trafiquer aux villes voisines sans porter bon bulletin à leur retour ». En 1629 et en 1637, on demande aux gardes qui sont payés par les cotisations des communautés de la Viguerie, juridiction administrative, de faire respecter les arrêts des consuls, à savoir la réglementation des cabaretiers à propos des étrangers. On est étranger quand on vient du village voisin. Certains sont chargés d'établir aussi des billets de santé pour circuler ou non. Ainsi, en 1665, un certain François Demont est commis à la Porte Saint-Jean pour recevoir les billets de santé. Les archives de Valabrègue sont riches en documents concernant ces épidémies et les mesures prises pour les contrer. Le 17 avril 1613, un bail est passé entre les consuls de Valabrègue et un certain Claude Manivet, chirurgien, pour servir la dite communauté et habitant d'Issels pendant 3 ans. Il devra, sans demander autre salaire, servir ceux qui se trouveront atteints et blessés de la maladie. Déjà, la peste de 1628-1630 entraîne la mise en place de barrières avec garde autour du village pour la conservation de la santé publique à l'occasion de la peste. Le 8 décembre 1628, un conseil extraordinaire touchant l'ordre du mal contagieux se tient dans la chapelle des Pénitents Blancs, notre salle actuelle de la chapelle qui vient d'être construite en 1625. Ce conseil précise qu'un bureau sera établi à chacune de nos portes, porte des remparts en place à l'époque, et que des personnes capables seront désignées pour faire la garde. En 1640, les consuls font célébrer la Sainte Messe à l'honneur et à la gloire de la Sainte Marie. On pense alors que la maladie est la conséquence du mécontentement divin. Ils interdisent la sortie des blés. En effet, à cette époque, la propagation de la contagion est accrue par la disette et la misère qui affaiblissent les populations. Le 26 juin, on poursuit pour infraction au règlement sanitaire un certain Jean Romieux qui aurait même jeté par la fenêtre un pot de chambre, ce qui peut entraîner des risques sanitaires. Les contraventions et les négligences actuelles existaient déjà. Une famille meurt sur l'île de la Goussette, sur la rive droite qui fait partie de Valabrègue, tout comme Comps à l'époque. À Comps, il y aurait eu cette même année 25 morts et une dizaine de maisons infectées. En 1664, on établit une garde bourgeoise avec des billets de santé. En 1629-1630, à Aramon, Valla écrit que la peste est la plus violente qu'on a vue. Elle vient de Lyon cette fois-ci, pas toujours de Marseille. Les habitants vont soit à l'infirmerie de l'hospice, 217 morts dans ce lieu, soit restent chez eux ou vont aux champs dans les oliviers. Il y avait des maisons de quarantaine où l'on envoyait les malades surveillés par des gardes de santé. On ne connaît pas le nombre exact de morts, car les curés n'ont plus le temps de les compter. La peste en 1720 est la foire de Beaucaire. La foire de Beaucaire est en partie responsable de la peste de 1720. Pourquoi ? Encore une fois, le commerce et l'avidité de certains marchands en sont responsables. La grande foire de Beaucaire, 100 000 personnes certaines années, et des marchandises qui viennent de partout, d'Orient en particulier, se tient fin juillet à la Sainte-Madeleine. Le bateau Le Grand Saint-Antoine arrive à Marseille le 25 mai 1720. L'ancre de ce bateau, repêchée récemment, se trouve au musée de la Marine à Marseille. Il y a déjà des cas de peste sur le bateau, mais on l'autorise à débarquer. Le bureau de santé qui se trouve sur le vieux port est construit en 1719. Il sert à contrôler la santé pour les bateaux entrants. Le premier échevin est Estelle, qui a armé le bateau en 1719 pour la Syrie. Il possède un stock de soie qui doit être vendu à la foire de Beaucaire. Le coût est estimé en équivalence à 9 millions d'euros. La foire a lieu malgré les risques de peste déjà connus. Les marchandises suspectes sont mises en quarantaine dans l'île de Valabrègue. Dom Vaissette, dans son histoire du Languedoc, écrit qu'un lazaret est construit par l'entrepreneur des baraques du pré de Beaucaire pour la foire dans l'île de Valabrègue, qui servit de lieu d'internement pour les camisards de cavaliers. On y faisait faire quarantaine aux personnes venant de Provence autorisées à pénétrer en Languedoc. Il faut rappeler que le village est à l'époque entouré par le Rhône et ses bras, donc facile à isoler. La foire sera annulée en 1721 et 1722. La fin du blocus est décidée le 19 novembre 1722. Mais l'épidémie a fait 100 000 victimes dans la région, dont 50 000 à Marseille. Saint-Rémy compte 996 morts pour 2500 habitants. C'est beaucoup. Arles compte 10 210 morts sur 23 170 habitants. La peste est arrivée à Arles par des marchands de la foire de Beaucaire qui n'ont pas respecté les consignes de mise en quarantaine. Cette grande peste s'étend aussi en Languedoc, au Comtat. Avignon sera une des dernières villes touchées en 1722 et en Gévaudan. Ainsi, la Canourgue perd 64% de sa population et Marvejols 53%. Les décès dus à ces épidémies expliquent en partie que vers 1700, l'espérance de vie d'un adulte est de 45 ans, 83 aujourd'hui, et le taux de mortalité tourne autour de 30 pour 1000, 9 actuellement. À propos de cette peste à Marseille, Stendhal écrira « C'est à Marseille que j'ai compris le proverbe « ennuyeux comme la peste ». Beaucaire prend des précautions pour la foire, mais ne supprime pas en 1720. Écoutons le récit de l'historien P. Gaffarel sur la peste de 1720, BNF. Les consuls ne manquèrent pas à leur devoir. Dès le mois d'août 1720, ils interrompaient brusquement toute communication avec la Provence. Les Beaucairois espéraient ainsi se garantir du fléau et tenir, comme de coutume, la grande foire qui les enrichissait. Mais on savait que beaucoup de marchandises avaient été transportées de Marseille à Beaucaire et on redoutait l'apparition du fléau. Bernage, l'intendant du Languedoc, ordonna d'enfermer dans des magasins spéciaux pour les purifier toutes celles qui n'étaient pas sorties de la ville et d'arrêter celles qui étaient en route ou déjà arrivées dans d'autres villes du Languedoc. Comme, malgré ces mesures préventives, une vaste contrebande s'était organisée, Bernage recourut à des mesures plus sévères. Les négociants furent tenus, sous peine de mort, de déclarer toutes les marchandises de provenance orientale qu'ils possédaient en magasin, soieries pures ou mêlées d'or et d'argent, tissus, laine, fil, coton, toile peinte, mousseline, etc. Ces étoffes seraient transportées dans des ateliers de ventilation, désinfectées et rendues seulement après avoir subi ces diverses épreuves constatées par des marques particulières. Si, après 3 jours de répit, la déclaration n'était pas faite, les étoffes seraient brûlées et leurs propriétaires mis à mort. Mais finalement, on prit la décision de supprimer la foire. Ordonnance du 17 mai 1721. Si les Beaucairois furent ruinés par cette défense, au moins furent-ils préservés de la peste. Les Beaucairois ne manquent pas de culot. Indirectement à cause de leur foire, ils sont responsables de la peste, mais sont les premiers à s'en protéger en coupant les communications avec la Provence sitôt la foire terminée. Poursuivons le récit de Gaffarel. Or, en 1720, par un bizarre contraste, on ne parut pas s'émouvoir outre mesure. On sut pourtant de très bonne heure, dès le mois de juillet, que la peste avait fait son apparition à Marseille, mais la grande foire de Beaucaire fut tenue comme d'habitude, et les négociants marseillais circulèrent en toute liberté. Le 3 janvier, elle faisait des victimes à Orgon et à Tarascon. Le 16 août, la peste était à Saint-Michel de Frigolet. La peste arrive à Avignon par la Courtine et Barbantane. Peut-être des balles de marchandises tirées de Beaucaire. Enfin, pour prévenir toute nouvelle attaque du fléau, deux maisons de quarantaine étaient établies sur la lisière du Gévaudan, à Florac et à Pradelles, et une troisième dans l'île de Valabrègue, au confluent du Rhône et du Gard, à l'endroit même où naguère on avait interné les camisards de cavaliers. Et c'est là que devait s'arrêter toute personne venant de Provence. Comment est vécue la peste dans notre secteur? En 1720, à Valabrègue, construction d'un lazaret de quarantaine entouré par un fossé d'isolement qui nécessite 300 journées coûtant 300 livres. En 1721, pour prévenir la disette à cause de la contagion, il est défendu d'exporter les grains du pays, céréales produites. On indemnise le fermier du bac qui permet la traversée du Rhône car suppression des passages de Provence à cause de l'épidémie, ce qui empêche de se rendre au moulin de Boulbon. On indemnise certains propriétaires de Bertranet, un quartier du terroir vers l'actuel chemin de Lillon, qui ont été obligés de délaisser leurs propriétés à cause de l'épidémie. Le 25 janvier 1722, le bureau de santé précise la liste des personnes pour monter la garde et interdire l'entrée du village aux personnes sans passeport et prohiber les marchandises non visées et les brûler. En 1721 et 1722, on supprime les élections consulaires, les municipales de l'époque. En 1722, 35 paysans font partie de la garde. En 1724, après la contagion, on vendra les baraques de quarantaine pour 245 livres. Les archives de Tarascon conservent des lettres des consuls de Beaucaire qui réglementent les conditions particulières de ces périodes de peste. Le pont de bateau entre les deux villes est particulièrement surveillé. Garde du pont, contrôle des passages, dès août 1720. Interdiction de commercer entre Languedoc et Provence, de faire passer les troupeaux. À Barbantane, une lettre du bureau de santé datée du 9 septembre 1720 signale les dangers que représentent les chiens et les cochons pour lutter contre l'épidémie. À Tarascon et dans les villages des environs, on avait soigneusement organisé la défense. Ainsi, à Barbantane, un détachement du régiment de Forez gardait la place et on avait construit des baraques pour en surveiller les abords. Les dépenses s'élevèrent à la somme de 1586 livres, 6 sols, 5 deniers. À Mézoargues, de 829 livres. Malgré ces précautions, Meillane fut envahie par le fléau et les besoins y furent urgents, écrit Gaffarel dans son récit sur cette peste dans la région. Une lettre écrite le 22 août 1720 du comte de Bourbon demande des fusils pour garder ses habitants. Une déclaration du 19 juillet 1721 des consuls de Tarascon signale que la contagion a commencé à Tarascon le 17 décembre 1720. Un document du 19 novembre 1722 indique enfin la suppression des barrières entre Beaucaire et Tarascon et autorise retrouvailles et embrassades. La levée des lignes de blocus fut ordonnée le 19 novembre 1722. Au même moment, tout le long du Rhône, le cordon sanitaire disparaissait et les habitants des deux rives du fleuve échangeaient aussitôt des visites de félicitations. Entre Beaucaire et Arles, surtout entre Beaucaire et Tarascon, c'était une succession de fêtes et de réjouissances. La navigation, si longtemps interrompue sur le fleuve, reprenait avec une animation extraordinaire. On eût dit une véritable renaissance économique. Ce fut seulement au 15 janvier 1723 que toutes les barrières s'abaissèrent et que le Languedoc rentra définitivement en communication avec le reste de la France, écrit Gaffarel. À Vaqueras, dans le Vaucluse, la peste retarde même les élections consulaires, c'est-à-dire municipales, en 1721. L'intendant reporte les élections à cause de la contagion, et cela jusqu'en 1723. Il est même précisé que le sursis permet au consul en place d'être plus instruit sur les précautions à prendre contre la contagion. Comme quoi, le report du second tour des élections municipales de mars 2020 n'est pas nouveau. Après l'épidémie, on fait les comptes à Tarascon. 150 à 200 morts pour 10 000 habitants à Tarascon. C'est moins que dans d'autres villes de la région. D'après R. Vignal, qui a écrit sur Tarascon au XVIIIe siècle, cela tient aux mesures draconiennes prises par les autorités, plus qu'à la protection de Sainte-Marthe, dont on promenait les reliques, comme affirmait le clergé à l'époque. Les morts sont surtout dans certains quartiers plus peuplés et insalubres. Les riches sont épargnés, car ils sont partis dans leurs refuges campagnards. Vignal signale que des accrochages ont lieu entre la population et les soldats qui gardent les barrières, parfois violemment, ce qui entraînera un certain mépris et révolte, au pluriel, plus tard contre le pouvoir. Le château du roi René conserve aujourd'hui une partie de la pharmacie, apothicairerie, donnée par la ville de Lyon pour combattre la peste de 1720. Relevez des comptes de la garde bourgeoise pendant la contagion qui indique 604 capitaines, 1404 lieutenants, 1616 sergents, 24 048 soldats entre 1720 et 1722. Il faut savoir qu'un quart de l'armée française va être mobilisée pour lutter contre cette peste de 1720. État des effets brûlés chez les particuliers atteints de la peste, qui comprend un état récapitulatif général évaluant le montant total à 19 845 livres et 82 états particuliers. Une lettre de l'intendant Lebray demande au consul de payer le salaire des chirurgiens Antoine et Riosset qui ont servi pendant la contagion. État des maisons parfumées pendant la contagion par Lachaud, intendant des infirmeries. En effet, pour désinfecter les maisons, on utilise des parfums à base de soufre et d'arsenic. Peut-on conclure cet article, écrit en ces jours de confinement dû à cette peste actuelle qu'on nomme coronavirus ou Covid-19, par une réflexion du philosophe Edgar Morin qui écrit « Ce qui est unique, c'est que nous vivons à la fois une expérience mondiale, nationale, locale, une expérience matérielle et psychologique, une expérience collective et personnelle. » Lorsque j'ai commencé ces recherches sur la peste ou le choléra à Valabrègue et dans la région, il y a une quinzaine d'années, j'étais loin de penser que j'écrirais cet article dans des conditions similaires par certains points à celles d'il y a plusieurs centaines d'années à Valabrègue. Georges Sudre, 28 mars 2020. Prochain article, le choléra dans notre région.